Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin d'actualité francophone sur ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et ailleurs dans le Grand Nord. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine dans l'actualité. La loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest, qui n'a pas été touchée depuis 2004, pourrait très bientôt subir de nouvelles modifications. C'est ce que nous apprenait cette semaine le ministre responsable des langues officielles, R.J. Simpson. Les langues autochtones ont-elles suffisamment de place dans cette loi qui régit les 11 langues officielles du territoire? Mon collègue Denis Laure a sondé les opinions. C'était la dernière semaine de la session d'automne de l'Assemblée législative des TNO, une semaine qui a été marquée notamment par l'adoption d'un budget supplémentaire de 88,7 millions lié à la COVID-19, une semaine qui a également été marquée par la création du Comité spécial de réconciliation et des affaires autochtones. Le Nunavut concluait également ses travaux d'automne à l'Assemblée législative, une session marquée par un mini-remaniement ministériel. La capitale ténoise entame le processus qui mènera en décembre à l'adoption d'un budget pour l'année 2021. L'administration suggère une augmentation de taxes de plus de 11 %. J'en discute avec la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty. Le 14e Festival international du film de Yellowknife bat son plein. J'en discute avec mon collègue Baptiste Foisy. Ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade nous présente les derniers développements entourant le projet d'Université polytechnique des territoires du Nord-Ouest. Du côté du Nunavik, les femmes enceintes présenteraient une concentration anormalement élevée de composés chimiques potentiellement liés à des problèmes de santé. Ma collègue Nelly Guidici s'est penchée sur la question. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest s'engage vers une première modification à la loi sur les langues officielles du territoire en 16 ans. Le ministre responsable des langues a émis cette semaine trois recommandations d'amendement à la loi sur les langues officielles. Ce serait la première fois depuis 2004 que des modifications sont apportées à cette loi qui régit les 11 langues officielles des territoires du Nord-Ouest. On l'apprenait le 2 novembre, c'était dans le cadre de la comparution du ministre responsable des langues, R.J. Simpson, devant le comité des opérations gouvernementales des TNO, qui procède ces jours-ci à l'examen de la loi. Dans le cadre de ce processus de révision qui a lieu en fait tous les 5 ans, le comité, qui est constitué de députés des TNO, a le mandat d'émettre ses propres recommandations quant à ce qui devrait, selon ses membres, être changé dans la loi sur les langues officielles des TNO. Toutefois, au terme des derniers exercices de révision du comité qui ont eu lieu en 2009 et en 2014, aucune des recommandations émises n'a été retenue. Le ministère lui-même n'avait apporté aucune modification. Bref, la loi est demeurée inchangée. Cette année, comme l'a expliqué la directrice du secrétariat à l'éducation et aux langues autochtones, Angela James, le ministère responsable des langues officielles propose de profiter de ce processus de révision pour apporter des modifications administratives qui s'imposent depuis un certain temps. Les recommandations sont essentiellement cosmétiques. Elles incluent notamment la révision des règlements et des lignes directrices qui régissent les langues autochtones du territoire. Le GTNO cherche également à mettre à jour les termes employés dans la loi. Par exemple, on compte changer le nom de la langue esclave du Sud par Dene-Zaïté, un terme employé par plusieurs membres des collectivités de la région pour désigner leur langue. On recommande finalement de fusionner le comité sur les langues officielles et le comité sur la revitalisation des langues autochtones. En pratique, cette fusion est effective depuis 2017. Elle n'est toujours pas officiellement inscrite à la loi. Ces propositions du GTNO seront présentées aux membres de l'Assemblée législative afin qu'un nouveau projet de loi incluant ces amendements soit adopté. De son côté, le Comité sur les opérations gouvernementales souhaite également que ces propositions fassent partie de l'éventuel projet de loi. Le député de Frame Lake et membre du comité, Kevin O'Reilly, a demandé au ministre s'il s'engageait cette année à inclure certaines recommandations du comité.
I guess I'd like to get some assurance from the minister that when the committee recommends legislative change, that work is actually going to result in a bill coming forward to the House to make the kinds of changes that were presented to us here, and additional ones perhaps that the committee will review.
I can't commit to that. I know the member said perhaps based on what the committee recommends. I can't commit to implementing changes that the committee recommends without seeing them. I mean, I think that's just bad legislating to blindly agree to something like that.
Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson, indique qu'il ne peut pas s'engager à apporter ces changements, des changements réclamés par le comité avant même d'en avoir pris connaissance. D'ailleurs, la décision finale revient aux membres de l'Assemblée législative. De son côté, le député de Yellowknife Nord, Rylan Johnson, a déploré que la loi sur les langues officielles se concentre essentiellement sur l'offre de services et qu'on y néglige la protection et la revitalisation des langues autochtones, dont certaines font face à une assimilation inquiétante, risque de s'éteindre. Selon M. Johnson, ce processus de révision ne devrait pas se limiter à la loi sur les langues officielles. Il devrait inclure également la loi sur l'éducation dans une optique de transmission aux nouvelles générations.
And so what I would like to do is, we also happen to be amending the Education Act, is really look at how these two can work together. Under the charter, French language speakers have a right to French language schools, should there be sufficient demand. I believe we can create a similar right for indigenous languages in the Northwest Territories. I also think we could combine that with kind of a standing offer to Indigenous governments to take on education and have that backstop.
Donc, comme bien des intervenants dans ce débat, Rylan Johnson y va d'une comparaison avec la langue française. Sous la Charte canadienne des droits et libertés, met-il en lumière, les francophones peuvent faire une demande afin d'envoyer leurs enfants à une école de langue française. Il faudrait générer le même type de droit pour les autres communautés linguistiques du territoire, a suggéré le député de Yellowknife Nord, Rylan Johnson. Il a ensuite demandé au ministre s'il était prêt à créer un droit à l'accès aux écoles autochtones sur le territoire. Le ministre a souligné que plusieurs élèves à travers le territoire ont tout de même accès à certains cours, à une éducation dans l'une des 9 langues officielles autochtones du territoire. Il a tout de même reconnu que le GTNO doit en faire plus pour mettre les langues autochtones de l'avant. Alors que différents comités du gouvernement se penchent présentement sur la révision de la loi sur les langues officielles, plusieurs parties prenantes suggèrent de faire davantage de place aux langues autochtones. Mon collègue Denis Laure est avec nous pour nous en parler. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Denis, vous vous êtes penché cette semaine donc sur les amendements qui sont souhaités à la loi sur les langues officielles.
Oui, la loi a été adoptée en 1988, mais le dernier amendement date de 2003, donc 17 ans sans changement. Je me suis entretenu avec le gestionnaire du programme de langue de la Northwest Territories Métis Nation, Van Sanderson, et avec celle qui a été la première commissaire aux langues officielles de l'histoire des TNO, Betty Harnum. Les deux m'ont dit un peu la même chose, c'est que la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles doit mettre davantage d'emphase sur les langues autochtones. Selon Mme Harnum, il y a beaucoup de choses qui sont exigées en français, mais qui sont seulement optionnelles dans les langues autochtones, alors que celles-ci sont dans un très grand déclin. Mes interlocuteurs m'ont pas précisé quelle partie de la loi, quel article devrait être modifié. Ils m'ont seulement fait part d'un état d'urgence pour les langues autochtones. Cela malgré les statistiques positives qui ont été apportées l'autre jour par la directrice du secrétariat des langues autochtones, Angela James.
Des propos qui ont été corroborés par la commissaire aux langues officielles, Shannon Goldberg, là, pas plus tard que la semaine dernière. Et Denis, selon Mme Harnum, la loi sur les langues officielles, dans son état actuel, comprend déjà des dispositions pour protéger les langues. Le problème, c'est qu'elles ne seraient tout simplement pas appliquées.
Oui, c'est ça. Il ne suffit pas d'améliorer la loi. On peut commencer par l'appliquer. Elle me donnait, par exemple, que dans certains bureaux régionaux de différents ministères, la signalisation devrait être là dans toutes les langues officielles, puis c'est pas fait. Elle me dit aussi que la commissaire aux langues officielles ne remplit pas son mandat de faire la promotion des langues, d'aller à la radio, d'instruire les gens sur leurs droits. Puis en plus, le poste a été réduit alors que c'était un travail à temps plein auparavant, c'est maintenant à temps partiel. Madame Harnum juge également que le Conseil des langues officielles est hautement inefficace.
Tout ceci sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de commissaire aux langues officielles au TNO. Là, le poste est toujours à pourvoir. On le rappelle, Shannon Goldberg terminait son mandat le 31 octobre. Et Denis, Madame Harnum émet donc des critiques. Elle a également des suggestions.
Oui, si vous voulez, on va l'écouter. Elle me parle de l'utilisation des ressources pour la traduction des sessions de l'Assemblée législative.
Je suggérerais que les interprètes maintenant qui travaillent tout le temps dans l'Assemblée, qui ne sont pas entendus chaque jour par les communautés, peuvent faire une synthèse des discussions chaque semaine qui concernent leur région. Alors, ils peuvent faire des entrevues avec les membres de l'Assemblée, peut-être avec les citoyennes qui demeurent dans les régions, et faire un petit sommaire de toutes les choses qui concernent cette région.
On entendait Betty Harnum, qui a été, en fait, la première commissaire aux langues officielles de l'histoire des territoires du Nord-Ouest. Denis, est-ce qu'on va avoir la proposition d'une 12e langue officielle?
Non. Apparemment, dans le passé, Vance Sanderson avait déjà demandé que le Mi'kmaq, vous savez que c'est cette langue parlée par les Métis, qu'elle fasse partie des langues officielles. Mais je lui ai demandé si elle réitérait sa demande. Elle dit pas maintenant, pas pour l'instant. Il voulait que la langue, son usage soit renforcé parmi les Métis et que les enseignants gagnent encore de l'expérience. Mais il n'a pas écarté cette possibilité-là pour l'avenir.
Parfait. Donc, Denis, on est au tout début du processus de révision de la loi, donc on va certainement s'en reparler. Denis Laure, journaliste pour L'Aquilon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Thomas.
Bienvenue dans Zone Arctique avec Nelly Guidici. Un groupe de chercheurs de l'Université Laval de Québec et de l'Université de Toronto Scarborough ont révélé que des femmes enceintes du Nunavik présentaient des concentrations deux fois plus élevées de composés chimiques potentiellement associés à certains problèmes de santé par rapport à la population canadienne. Cette étude a été publiée dans la revue Environment International. Entre 2004 et 2017, ce sont donc 279 femmes enceintes qui ont accepté de faire partie de cette étude, qui conclut que l'exposition aux acides perfluoroalkylés, appelés PFAA, chez ces femmes enceintes était deux fois plus élevée que celle mesurée dans un échantillon représentatif de Canadiennes du même groupe d'âge. Les PFAA sont largement utilisés dans la fabrication de produits d'usage courant comme les emballages alimentaires, les peintures, les cosmétiques. Peu biodégradables, ces composés persistent cependant dans l'environnement et voyagent facilement par les courants atmosphériques et océaniques où ils s'accumulent en Arctique et contaminent la chaîne alimentaire. Présents dans les tissus des poissons et des mammifères marins consommés au Nunavik, la source principale de contamination de ces femmes enceintes se fait donc par la consommation d'aliments traditionnels. Élise Caron-Baudouin, co-auteure de l'étude et professeure adjointe en santé environnementale à l'Université de Toronto.
Il y a ce voyage des PFAA en Arctique par le courant océanique, le courant atmosphérique, et ces PFAA-là se déposent dans l'environnement et peuvent être accumulés dans la chaîne alimentaire et se retrouver dans certains aliments du territoire.
Le gouvernement fédéral est pourtant conscient de ce problème depuis les années 1990. Le programme de lutte contre les contaminants dans le Nord a été instauré en 1991 afin de comprendre et résoudre cette problématique. Cependant, 30 ans après la mise en place de ce plan, la situation reste alarmante au Nunavik.
Les aliments du territoire contribuent à assurer une sécurité alimentaire qui est primordiale. Donc nous, notre objectif avec l'Arctique, c'est de générer des données qui pourront, on l'espère, appuyer une réglementation au niveau fédéral et international beaucoup plus stricte, non seulement des PFAA, mais aussi de leurs précurseurs comme les FTOH. Et tout ça dans le but de contribuer à protéger la qualité nutritionnelle et l'importance culturelle et traditionnelle des aliments du territoire au Nunavik. Puis elle est ici, l'injustice, le manque de balance ont fait subir la majorité des risques associés à ces composés-là par une population qui n'est pas responsable de la production de ces produits-là. Mm-hmm. Et qui n'a pas non plus les ressources pour faire face aux problématiques associées à une contamination environnementale plus importante.
Les populations du Nunavik semblent une fois de plus touchées par cette injustice environnementale. C'était Nelly Guidici pour Zone Arctique.
Cette dernière semaine de la session d'automne de l'Assemblée législative des TNO aura été marquée par l'adoption d'un budget supplémentaire de 88,7 millions lié à la COVID-19, qui est donc désormais greffé au budget 2020-2021 du territoire. L'adoption de ce projet de loi a été précédée la veille par un long débat en Chambre. C'est notamment l'inclusion du secrétariat pour la COVID-19 dans la liste de dépenses supplémentaires qui aura été ciblée. 31,7 millions sont alloués cette année à cette nouvelle agence gouvernementale où sont centralisés les services relatifs à la pandémie. La facture totale pourrait s'élever à 87 millions de dollars sur 3 ans. Or, la ministre des Finances, Caroline Vazonek, a souligné que les coûts associés au secrétariat pour la COVID-19 seront en partie atténués par des fonds du gouvernement fédéral à hauteur de près de 23 millions pour l'année 2020-2021, ce qui réduirait la contribution du territoire à un peu plus de 9 millions. Principal détracteur de la mise sur pied du secrétariat pour la COVID-19, le député de Mamfoui, Jackson Lafferty, a indiqué entre autres que les gouvernements autochtones s'opposaient à une telle dépense qui aurait pu être, selon lui, autrement répartie à travers les collectivités du territoire. La première ministre Caroline Cochrane a précisé qu'une rencontre a eu lieu récemment avec des représentants des gouvernements autochtones. Sans pouvoir offrir de détails précis sur cette rencontre, Mme Cochrane estime à 8 le nombre de collectivités représentées. De ce nombre, 7 auraient approuvé le secrétariat pour la COVID-19. Mme Cochrane a souligné que le gouvernement Tlicho n'était pas présent à cette rencontre. Les membres de l'Assemblée législative des TNO adoptaient également, ce lundi 2 novembre, la création d'un comité spécial de réconciliation et des affaires autochtones. Ce comité rassemblera 2 membres du conseil exécutif, soit le ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, R.J. Simpson, et la ministre des Finances, Caroline Vazonek, qui se joindront à 3 députés réguliers. Ce sera la députée d'Inuvik Twin Lake, Lessa Semler, le député de Yellowknife Nord, Rylan Johnson, et la députée de Tebacha, Frida Marcellos. D'abord inclus dans ce comité, le député de Tunedewilde, Steve Norn, a annoncé ce jeudi 5 novembre qu'il cédait sa place à la députée de Tebacha, Frida Marcellos. M. Norn indique avoir pris cette décision après avoir consulté les chefs de sa circonscription. Dans la culture autochtone, nous accordons une grande valeur à l'expérience et à la sagesse, a déclaré M. Norn dans un communiqué de presse. Frida est engagée dans des activités de cette nature depuis bien plus longtemps que moi, ce que je respecte grandement. Le comité spécial a pour mission notamment de produire des recommandations au ministre de l'Exécutif et des Affaires autochtones en rapport avec les négociations sur les droits des Autochtones et la réconciliation avec les peuples autochtones au territoire du Nord-Ouest. La municipalité de Yellowknife présentait cette semaine une première esquisse de son budget 2021. C'est le début d'un processus qui se terminera le 6 décembre par l'adoption du budget final. Comme pour bien des municipalités du territoire, la pandémie aura certainement un impact sur les montants qui seront alloués aux services municipaux, mais également sur les taxes des résidents. J'en ai discuté avec la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty. Peut-être nous raconter un peu, Madame Alty, comment ça fonctionne une budgétisation en temps de pandémie, à quel point ça va être difficile selon vous?
Avec la ville qui est différente comparé au gouvernement territorial et fédéral, le gouvernement du municipal, il faut que notre budget soit balanced. L'argent des dépenses et l'argent de la revenue, il faut que c'est ça égal.
Il ne peut pas y avoir de déficit, c'est bien ça, là, contrairement au territoire. Voilà.
Oui, exactement. Donc, quand comme la piscine et les patinoires et tout ça, on reçoit beaucoup moins de revenus dans ces places. Comme la piscine, maintenant, il peut seulement avoir 20 personnes dans la piscine. Donc, on voit comme une demi de la revenue, ça c'est qu'est-ce qu'on fait pour 2021. Mais c'est difficile aussi de savoir si il faut qu'on ferme la piscine ou de les autres rec facilities. C'est plus difficile cette année d'être certain, oh ben, on n'est jamais certain à propos de notre revenue, mais de mettre notre estimate plus professionnel.
Une estimation. On sait pas, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Et en ajoutant aussi qu'on a perdu de l'argent déjà là, ces derniers mois.
Oui, exactement. Et le gouvernement territorial, cette semaine, il passe le budget qui va donner de l'argent aux villes pour le COVID, parce que jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucun argent du gouvernement territorial ou le gouvernement fédéral. On va savoir le montant exact. Et puis, avec ce montant, on peut faire une réduction d'impôts parce que maintenant, 11,92%.
Voilà, c'est ce qui est dans l'esquisse. Donc, ce n'est pas un chiffre qui est définitif, mais pour l'instant, l'administration propose une augmentation de 11,92% du taux d'imposition. C'est bien ça?
Oui, exactement. Mais pour chaque 315 000 $ on peut réduire l'impôt par 1%. On sait qu'on va recevoir de l'argent du gouvernement territorial, mais on n'est pas certain de le montant exact.
On attend ce montant-là. Il y avait aussi des mesures d'atténuation, si je comprends bien, qui allaient peut-être avoir une influence sur l'augmentation des impôts.
Oui, exactement. Donc, au fin de la mois de novembre, donc ça va commencer le 30 novembre, conseil va faire des délibérations. Donc, on va regarder à tous les programmes, tous les services et décider si ça c'est le niveau qu'on veut dépenser. Donc, il y a encore des chances à réduire l'impôt ou d'augmenter.
Est-ce qu'on doit craindre une diminution de certains services? Est-ce qu'il va y avoir des décisions difficiles à prendre durant le mois de novembre là, par le Conseil?
On verra. Je pense que c'est important pour les résidents d'envoyer c'est quoi leur priorité. Donc, s'ils pensent que le niveau d'un service c'est exact, c'est parfait, ou s'ils pensent qu'un niveau, un service devrait augmenter leur qualité de service, ou s'ils pensent qu'il y a une place où on devrait réduire. Donc, d'ici jusqu'au 7 décembre, parce que ça, c'est le jour qu'on vote pour le budget final. Donc, pour le prochain mois, j'encourage les gens de nous envoyer leurs priorités.
Est-ce qu'il y a un meilleur canal pour vous envoyer ces priorités? De quelle façon les résidents peuvent s'exprimer?
Il y a notre email, c'est council@yellowknife.ca. Et il y a aussi une réunion qui se passe le 16 novembre à 19h. Et donc, c'est sur GoToMeeting, c'est le webinar. Donc, si les gens sont intéressés à venir à notre réunion, on peut les envoyer le login. Si on veut envoyer un email ou si tu nous vois sur la rue et t'as des suggestions, il y a beaucoup de différents choix.
Rebecca Alti, mairesse de la municipalité de Yellowknife, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Pas de problème.
Le Festival international du film de Yellowknife bat son plein et ce jusqu'à dimanche. Baptiste Foisy est avec nous pour nous en parler. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Donc, Baptiste, qu'est-ce qu'on surveille cette année là, au Festival du film?
Bien, d'abord, le Festival de film de Yellowknife, c'est une institution au territoire du Nord-Ouest. Ça fait 14 ans qu'un festival de film est présenté au territoire du Nord-Ouest. Tiens, je dois dire en toute humilité que j'étais sur le conseil d'administration quand le festival de la coopérative de film, quand le festival a été inventé.
Le tout premier, donc.
Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je suis impliqué là-dedans, mais je devais le dire pour que vous compreniez que je suis l'étendue de mon objectivité. Cela étant dit, le festival a beaucoup évolué depuis le temps où je siégeais sur le conseil d'administration. Maintenant, cette année, c'est pas moins de 54 films qui sont présentés.
54 films. Il y avait combien de films à la première année, Baptiste?
On doit en avoir une douzaine, peut-être. Et à l'époque, c'était, je me souviens bien, on présentait ça dans la salle Northern United Place, là, qui est comme l'église unie à Yellowknife. C'est là que ça avait lieu. Cette année, les dernières années, ça avait lieu au cinéma de Yellowknife. Cette année, c'est la COVID-19. Hein?
Dans nos salons, finalement. Là, où,
Oui, c'est ça. C'est un peu comme du streaming. C'est un peu un Netflix avec, avec le sourcil relevé, le festival Waikif cette année, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ce sont une programmation de cinéma indépendant, de cinéma canadien, cinéma aussi circumpolaire, mais aussi qui vient d'un peu partout. Il y a même un film qui vient de la France là-dedans. Toujours un fond de films qui traitent de sujets nordiques, mais il y a également aussi des films qui sont là parce qu'on a envie de les voir, tout simplement. Notamment, deux films en français cette année. On diffuse dans le salon « Il pleuvait des oiseaux », ou en anglais « And the birds rained down », un film qui met en vedette notamment Gilbert Sicotte et André Lachapelle. Et également un autre long métrage de fiction français, c'est La Belle Époque, un film avec, si je ne m'abuse, Daniel Auteuil là-dedans, il me semble. Voilà, une réalisation de Nicolas Bedeau. Il y a du cinéma de fiction, mais il y a également surtout beaucoup, une bonne sélection de documentaires, notamment des documentaires qui se passent ici au territoire du Nord-Ouest, et aussi toujours plusieurs projections ou sélections de courts-métrages. Cette année, trois différents programmes de courts-métrages font partie de ce film.
C'est intéressant, on peut payer à la pièce là, pour chaque film. Il y a aussi un abonnement qui donne accès à tous les films. Enfin, si vous avez le temps de voir 34 films cette année.
Oui, évidemment, il va falloir faire un tri. D'ailleurs, j'ai demandé à un des membres du conseil d'administration de la coopérative Western Arctic Moving Pictures qui produit le festival de me dire qu'est-ce qu'il nous suggérait de voir. On va écouter Martin Réac.
Un long métrage que j'ai pas vu encore, mais c'est un documentaire qui s'appelle Citizen Bio. Et puis, c'est à propos du biohacking que les gens font sur eux-mêmes. Je sais pas trop comment expliquer le biohacking, mais c'est comme...
C'est comme des cyborgs modernes. Là. C'est des gens qui transforment leur corps pour y inclure des éléments de machine.
C'est ça. Oui. De ce genre-là. Yeah, comme ça. C'est ça. D'abord, ça peut être intéressant parce que je ne sais pas trop sur ce sujet, mais c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qu'on va voir dans l'avenir de plus en plus.
C'était Martin Réac, un membre du conseil d'administration du Festival international de films de Yellowknife. Le festival de films, bien sûr, ce sont des films, mais c'est aussi des présentations pour les gens qui aiment faire du cinéma, qui aiment le cinéma. Il y aura notamment ce samedi une compétition de pitch. Alors, si vous avez des idées de films, vous pouvez vous rendre en ligne. Oui, c'est à 7h ou 19h plutôt samedi. Que vous pouvez participer à ça et arriver à présenter votre film. Il y a de l'argent qui sera alloué à un projet qui pourrait être présenté sur les ondes de la télévision communautaire de Northwestel.
Donc ça se passe jusqu'à dimanche, un excellent prétexte pour rester au chaud en fin de semaine. Merci beaucoup, Baptiste.
Je vous en prie.
Après un processus de consultation qui a eu lieu un peu plus tôt cet automne, le GTNO dévoilait les prochaines étapes liées à la transformation du Collège Aurora en Université Polytechnique. Ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade est avec nous pour nous en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas.
Cécile, on va avoir droit à une Université Polytechnique en 2025?
Oui, effectivement, le gouvernement s'est laissé donc 5 ans pour concrétiser le projet. Alors, pour rappel, l'engagement de cette transformation en Université Polytechnique du Collège Aurora a lieu en octobre 2018, donc il y a déjà 2 ans. Et là, donc normalement, l'université devrait être lancée et ouverte en mai 2025, mais la finalisation complète devrait être en octobre 2026, donc un an après. Bien sûr, les plans peuvent toujours changer. Ils l'indiquent d'ailleurs sur un site internet où on peut suivre l'évolution des progrès de cette université directement sur le site du gouvernement des TNO. Donc on peut suivre au jour le jour cette évolution.
Le gouvernement a présenté, comme je le disais un peu plus tôt, en septembre, une esquisse de ce qu'on imaginait comme programme d'études. C'est passé à travers un processus de consultation. Il y a de sérieux doutes qui ont émané notamment de la municipalité de Yellowknife. Vous aviez soulevé la question, Cécile.
Oui, effectivement. Donc, il y avait un comité consultatif qui avait été formé par la ville de Yellowknife, notamment présidé par Julian Morse, qui est un des conseillers municipaux. Et il y avait eu de nombreuses critiques qui avaient été avancées, comme par exemple l'absence de programme compétitif et notamment l'absence totale de programme concernant les sciences sociales. J'ai posé la question à Chris Joseph, donc, qui est le directeur responsable de la transformation du Collège Aurora, qui m'a expliqué qu'ils avaient été clairs dès le départ, qu'ils proposaient une université polytechnique d'abord destinée aux habitants du Nord et que les sciences sociales n'étaient pas dans le programme parce qu'ils ne voulaient pas forcément attirer des gens de partout au Canada ou partout dans le monde, mais surtout s'adresser aux habitants du Nord. Voilà. Mais d'un autre côté, il a également ajouté que les sciences sociales étaient pas perdues dans les programmes puisqu'on pouvait les retrouver notamment dans le cursus de sciences politiques.
Cécile, il y avait aussi une question de compétitivité entre guillemets. On sait qu'il y a l'université du Yukon qui est juste à côté. Compétitivité en matière de financement, par exemple. De quelle façon l'université polytechnique va se distinguer finalement dans le Nord?
Bah, effectivement, à la question de la compétitivité, la réponse de Chris Joseph est sans appel. Ils ne veulent pas être compétitifs avec une université comme celle du Yukon. Ils veulent travailler dans la collaboration. Alors bien sûr, on sait que la collaboration, c'est important, mais c'est quand même tout de même important d'attirer des étudiants et de recevoir des subventions.
Cécile Antoine Maisonnade, journaliste pour l'Aquilon. Merci beaucoup.
Merci Thomas.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Territoire d'Info.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.